prendrait bien un dernier verre. Tout en poésie, avec des auteurs à découvrir au fil des semaines et la contribution, précieuse contribution de Gilbert Vincent Cabou, qui justement nous reçoit aujourd'hui dans son bar poétique. Bonjour Gilbert.
Bonjour Patrice.
Et c'est un monument, on pourrait dire, de la poésie, quelqu'un qui a eu beaucoup d'influence, notamment au 19e siècle et au 20e. Poésie, mais également d'autres secteurs d'activité artistique. Forcément, ça évoquera quelque chose à tout un chacun.
Oui, monsieur, si vous êtes un fervent auditeur de ma chronique, la dernière fois, sur le dernier poème de l'émission, il y avait une petite rappel du Hareng Sort. Le Hareng Sort, pour vous, ça, c'est Charles Cros. Et Charles Cros, voilà. Quand on parle Charles Cros, on parle Hareng Sort, poésie très accessible aux enfants, etc. Un peu d'humour. Mais Charles Cros, c'était un sacré personnage. Il est né en 1842 et il est mort en 1888. Il faut savoir aussi que, quelque part, c'est l'inventeur de la photographie et aussi du phonographe. Mais du coup, comme il ne faisait pas de brevet et qu'il s'en foutait un peu, d'autres noms ont pris le relais pour s'attacher à cette technologie. Il a publié ses premiers poèmes dans le Parnasse contemporain, et c'est l'époque où il y a beaucoup de groupes de poètes, le Cercle des Poètes Justice. Il l'a créé. Les Vilains Bonhommes, les Hydropathes. Il a connu le Parnasse contemporain, mais il est davantage connu pour ses monologues, dont le plus connu, c'est ce dont on parlait l'autre jour, le Hareng Sort, qu'il récite lui-même dans des cabarets parisiens. L'Académie française lui décerne quand même le prix Marie-Joséphine Jugard pour l'ensemble de son œuvre. C'est un poète brillant, et sera plus tard l'une des sources d'inspiration du surréalisme, ce qui est pas peu dire quand même. Et il est cependant ignoré à son époque. Voilà. Je ne peux résister à vous citer un passage d'un article du Figaro, tant il me semble décrire ce poète attachant et grand inventeur, même s'il n'a pas su défendre ses trouvailles. Article du supplément du Figaro du 9 septembre 1924. C'était depuis longtemps ce qu'il cherchait âprement, de l'aube à l'aube, au Quartier Latin d'abord, à Montmartre ensuite. S'il rencontrait au cours de route un camarade, sa joie était de l'emmener, de causer, de parler de tout, d'art, de science, de poésie, sachant tout, ayant tout lu, et ne racontant presque jamais d'anecdotes, brillant paradoxal, parfois un peu bredouillant, souvent nostalgique, sans amertume. Il mourut prématurément le 9 août 1888, âgé seulement de 45 ans, au milieu d'un bruit de gloire qui n'était pas tout à fait la gloire, qui n'était pas celle qu'il méritait, et dédaigneux de la formuler. Voilà. Et on va découvrir donc les poèmes de Charles Cros au-delà de la rançon. Tzigane. Dans la course effarée et sans but de ma vie, dédaigneux des chemins déjà frayés, trop longs, j'ai franchi d'âpres monts, d'insidieux vallons. Ma trace avant longtemps n'y sera pas suivie. Sur le haut des sommets que nul prudent n'envie, les fins clochers, les lacs, frais miroirs, les chamblons me parlent des pays trop tôt quittés. Allons, vite, vite, en avant, l'inconnu m'y convie. Devant moi, le brouillard recouvre les bois noirs. La musique entendue en de limpides soirs résonne dans ma tête au rythme de l'allure. Le matin, je m'éveille au gros lot du départ, en route. Un vent nouveau baigne ma chevelure et je vais, fier de n'être attendu nulle part. Je pense que ce poème résume tout à fait Charles Cros, qui est passé comme une étincelle et qui laissait derrière lui ce qui aurait pu lui apporter la gloire. Nos sœurs, après avoir vidé toutes les coupes, toutes, il faut enfin rentrer. Car mes fibres dissoutes dans les cafés criards hantés par les catins ont froid dans la nuit lourde et les douteux matins. Marchons. Voici grouiller déjà les gens des halles. Je rougis. Maraîchers, à voir vos blouses sales que rafraîchit l'odeur lointaine des labours. Travailleurs ignorants des malsaines amours, vous entassez des choux sur le trottoir sans même vous douter de l'horreur qui suit le passant blême. Songe d'été. Ah, d'autres les ciels bleus ou les ciels tourmentés, la neige des hivers, les parfums des étés. Les monts où vous grimpez, fierté aventurière des Anglaises. Mes yeux aiment mieux les clairières où la charcuterie a laissé ses papiers, les sentiers où l'on sent encore l'odeur des pieds des soldats avec leurs payses, la presqu'île de Gennevilliers où croît l'asperge tranquille sous l'irrigation puante des égouts. On ne dispute pas des couleurs ni des goûts. Tableau. Enclavé dans les rails, engraissé de scories, leur petit potager plaît à mes rêveries. Le père est aiguillère à la gare de Lyon. Il fait honnêtement et sans rébellion son dur métier. Sa femme, hélas, qui serait blonde sans le sombre glacis du charbon, le seconde. Leur enfant, ange rose éclos dans cet enfer, fait des petits châteaux avec du mâche-fer. À 15 ans, il vendra des journaux, des cigares. Peut-être le bonheur n'est-il que dans les gares. Paysage. Versailles, où l'éclat des roses s'échelonne, les jardins suspendus jadis à Babylone, et les fruits de rubis des mille et une nuits, ont charmé longuement mes innocents ennuis. Mais, à présent, mûri par notre époque triste, je fuis ces visions qui poursuivent l'artiste, et mon regard rêveur s'abaisse volontiers vers la loge où, content, végètent mes portiers. Près du carreau poudreux où l'homme fait sa barbe, j'aime le petit pot où croupit la joubarbe. L'heure froide, au comte Ferdinand de Strada. Les crépuscules du soir m'ont laissé tant de pierreries dans la mémoire qu'il me suffit de prononcer ces mots crépuscule du soir, splendeur des couchants, pour évoquer à la fois les souvenirs solennels de sa vie antérieure et les ravissements de jeunesse enivrée. Et puis, après le crépuscule, la douce nuit transparente ou bien encore la bonne nuit épaisse comme des fourrures. Alors, à Paris, le gaz s'allume. L'été, le gaz brillant parmi les arbres des jardins donne au feu qu'on ne voit qu'en dessous des tons verts et mats de décors de féerie. L'hiver, le gaz dans le brouillard raconte tous les délires du soir. Le thé, le vin chaud dans les familles, la bière et les nuages de tabac dans les cafés, les orchestres qui font tourbillonner à leur respiration vibrante les élégances de toute classe. Ou encore la nuit de travail, la lampe, le coin du feu, aucune obsession bruyante. Puis, les étalages s'éteignent, les réverbères officiels ont seul le droit de jeter leur lueur austère. Les passants deviennent plus rares, on rentre. Les uns pensent à la chambre tranquille, au lit à rideaux, bon endroit pour mourir. Les autres regrettent l'agitation interrompue et s'étourdissent de chants et de cris en plein air, quelques querelles d'ivrognes. Des dames en capeline sortent des soirées honnêtes, des vendeuses de volupté chantent leur offre modeste à cause de leur avancée. On marche, on écoute ses propres pas, tout le monde est rentré. Les bouchers ensommeillés reçoivent d'énormes moitiés de bœuf, des moutons entrouverts et raidis. Tout le monde est chez soi, égoïstement et lourdement endormi. Où aller ? Tout endroit hospitalier est fermé. Les feux sont éteints. À peine trouverait-on quelques brins de braise dans les cendres des foyers refroidis. Dans la vie antique, c'est à cette heure-là que les dormeurs des orgies se font éveiller par les esclaves. On remet de l'huile aux lampes mourantes, on sert à boire, on s'agite, on chante. Mais c'est pour oublier la mortelle influence qui est sur la maison. Aussi, les plus forts sont pâles, bleuâtres, des frissons indomptables traversent leurs os. Les transparences de la nuit deviennent plus dures, se voilent de brume. Oh, il vaut mieux marcher ou aller, c'est l'heure froide. Minuit est la limite fictive, astronomique, entre la veille et le lendemain. Mais l'heure froide est l'instant vrai, humain, où un autre jour va venir. Il semble qu'à cette heure, il soit mis en question pour chaque être si ce jour qui vient s'ajoutera à ceux qu'il a déjà vécu ou si le compte en est fini pour lui. Alors, être seul, chez soi, sans dormir, c'est l'horreur. Il semble que l'ange de la mort plane sur les hommes, profitant de leur sommeil implacable pour choisir sa proie pendant que nul ne s'en doute. Oh oui, à cette heure-là, on étoufferait, on râlerait, on sentirait son cœur se rompre et le sang tiède, fan monter à la gorge dans un dernier spasme. Que personne ne pourrait entendre, ne voudrait sortir du sommeil pesant et sans rêve qui empêche les terrestres de sentir leur froide. Eh bien, pour finir, quoi de mieux qu'un poème qui s'appelle « Adieu ». Adieu. Je pisse dans le Saint-Ciboire et je dérobe aux espaliers les pêches mûres par milliers. Je me moque un peu de l'histoire. Ce qu'on voudrait me faire croire, les jardins brillants des pieds, les quêteurs pour estropier, tout ça, c'est la nature noire. Donc, je vais fuir au pays vieil, coteau plein de miel sans pareil, loin des bêtes que le sang grise. Et j'aurai cette joie esquise de voir courir, fleurs au soleil, mes fils qu'ébouriffe la brise. Et voilà, j'espère vous avoir fait découvrir une autre face de Charles Cros.
Un personnage atypique, on pourrait dire, entre poésie et technologie, et qui donc fait partie du cercle des poètes
zutistes
ou zutiques, et qui est zut à tout. Voilà. Anticonformiste, ce Charles Cros. Merci de ce partage. C'était, vous prendrez bien, un dernier vers, le bar poétique de Gilbert Vincent Cabou, à retrouver toutes les semaines sur les ondes de Radio Royan. Merci Gilbert, à bientôt.
À très bientôt Patrice.